Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur, nous sommes devant toi maintenant. Nous te demandons de bénir la prédication de ta parole. Qu'elle soit vraiment comme une révélation pour nous, comme un message qui vient de Dieu, d'un Dieu qui nous aime et qui veut nous attirer à lui toujours plus. Seigneur, fais-nous du bien maintenant, au travers de ta parole, que réellement ta parole nous guérisse spirituellement, moralement, physiquement, guérisse nos foyers, guérisse nos églises, guérisse nos ministères. Seigneur, merci pour la puissance de vie et de résurrection dans ta parole, qui a la solution à tous nos problèmes. Merci pour ce que tu veux nous dire maintenant. Merci pour les paroles d'encouragement que tu veux nous donner. Merci, Seigneur. Nous sommes devant toi maintenant. Parle-nous et fais-nous du bien. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dans l'Apocalypse, nous avons un verset que j'aimerais vous lire. Chapitre 3, verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Si nous voulons entendre ce que Dieu veut nous dire, il y a un effort de notre part. Il y a une attention de notre part. Bien souvent, nous disons « Dieu ne parle pas, Dieu ne me parle pas ». Ce n'est pas vrai, ce n'est jamais vrai. Dieu parle toujours parce qu'il nous aime. Mais c'est nous qui ne sommes pas attentifs à sa voix. C'est là la vérité. Ne dites pas « Dieu ne me parle pas ». Bien souvent, Dieu nous a parlé et nous ne lui obéissons pas. Ou alors, nous ne sommes pas attentifs à sa voix, mais Dieu parle. Dieu est un Dieu qui parle, Dieu est un Dieu qui agit. Dieu est un Dieu qui nous aime, et il vous aime cet après-midi, mais vous devez prendre garde. Si nous ne sommes pas attentifs à ce qu'il nous dit, nous ne comprendrons pas son message, et ce ne sera pas de sa faute si nous ne recevons rien. Donc, l'attention est importante. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et vous avez remarqué, dans le chapitre 2 et le chapitre 3 de l'Apocalypse, Dieu s'adresse à combien d'églises ? À 7 églises. Aux 7 églises. Aux 7 églises. Et qu'est-ce qu'il leur dit ? J'aimerais donc m'arrêter quelques instants sur ces 7 messages que Dieu adresse aux églises, en relevant dans ces églises une vérité importante, qui sont un peu comme pour cette nouvelle année, ou si vous voulez recommencer une vie nouvelle avec Christ, avoir une reconsécration nouvelle avec Christ, une vie de famille nouvelle avec Christ, il y a dans ces 7 messages aux églises 7 paroles prophétiques pour chaque chrétien. Et je crois que pour commencer une vie nouvelle, commencer une année nouvelle, commencer un ministère nouveau, ces 7 paroles prophétiques pour chaque chrétien nous concernent évidemment. Et j'aimerais qu'on fasse bien attention à cela, et moi le premier. Le Seigneur a eu donc un message pour ses églises, il a un message pour chacun d'entre vous, c'est un message prophétique. Le premier message qu'il a adressé à Éphèse est le mot important dans cette lettre à Éphèse, c'est quoi? Le point important est celui-ci. Il recommandait à l'église d'Éphèse d'avoir un amour fervent. Car vous le savez, dans Apocalypse 2, verset 4, le Seigneur dit à cette église, qu'est-ce qu'il lui dit? Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Voilà ici le message central que Dieu adressait à cette église. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et pourtant, écoutez-moi bien, si vous lisez là dans cette lettre-là, il y a des choses positives extraordinaires que Dieu adresse. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit au verset 2, chapitre 2, « Je connais tes œuvres, ton travail, voyez-vous, ta persévérance. Je sais que tu peux supporter, que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. » Voyez-vous, il y avait du discernement, il y avait des œuvres, il y avait de la persévérance dans cette église d'Éphèse. Ce n'était pas n'importe quoi ou n'importe qui. Et que tu les as trouvés menteurs, tu as de la persévérance. Voyez, à deux reprises, il est parlé de persévérance. Et que tu as souffert à cause de mon nom. C'est une église qui souffre à cause de Jésus. Si aujourd'hui on voit une telle église, on dirait, mais Dieu vous bénisse. C'est formidable, il n'y a absolument rien à vous à redire. Tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Donc, quelle est donc la parole prophétique que Dieu vous adresse et m'adresse en ce début d'année? Le message est celui-ci. Nous pouvons faire beaucoup de choses pour Dieu. Nous pouvons faire beaucoup d'œuvres. Nous pouvons persévérer dans beaucoup d'œuvres, dans beaucoup d'activités. Nous avons même peut-être le discernement des esprits. Nous discernons quel est le vrai apôtre, quel est celui qui ne l'est pas. Nous discernons les ruses du malin. Nous persévérons dans les voies de Dieu. On souffre même. On accepte même de souffrir pour le Seigneur. Il y a donc beaucoup d'activités. J'allais dire presque, l'activité s'est transformée en activisme. Et le danger est celui-là. Ils font beaucoup de choses, il y a beaucoup d'activités, et beaucoup pensent que puisque nous travaillons pour le Seigneur, puisque nous faisons beaucoup de choses pour le Seigneur, puisque nous souffrons même pour le Seigneur, mais le Seigneur n'a plus rien à nous redire, au contraire. Ils vont nous dire, mais c'est formidable toi, c'est formidable, tu souffres pour moi, tu persévères, tu as même le don de connaissance, de révélation. Mais Dieu ne se laisse pas arrêter par tout cela. Au-dessus des œuvres et de toutes nos activités, au-dessus de leurs œuvres et de toutes leurs activités, de toutes leurs souffrances, il y avait quelque chose, il y avait une lacune grave. C'est qu'ils avaient abandonné leur premier amour. Autrement dit, cela voulait dire qu'ils faisaient beaucoup de choses, mais l'amour pour le Seigneur n'y était plus. Autrement dit, ils faisaient beaucoup de choses. Ils étaient au service de Dieu. Et ils pouvaient même se vanter de tout cela, mais il manquait la chose essentielle. Ils faisaient ces choses mécaniquement. Il n'y avait plus d'amour pour le Seigneur. C'est là donc une parole prophétique pour nous, mes chers amis. Nous pouvons faire beaucoup de choses pour le Seigneur. Nous pouvons avoir la manifestation des dons spirituels dans notre vie. Mais au-dessus de tout cela, il y a quelque chose que vous devez réaliser. Est-ce que j'aime le Seigneur de tout mon cœur? Est-ce que ces choses, ces activités ne sont pas venues éteindre mon amour pour le Seigneur? si mon amour pour le Seigneur a diminué, toutes mes activités pour lui ne sont plus agréables à ses yeux. Et nous ne pouvons pas lui en mettre plein la vue. N'est-ce pas vrai? Donc le point important, avant de travailler pour le Seigneur, nous devons d'abord aimer le Seigneur de tout notre cœur. Avez-vous remarqué ce que le Seigneur a dit à l'apôtre Pierre? Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Oui, tu sais toute chose, tu sais que je t'aime. Et alors le Seigneur a dit, paie mes brebis, paie mes agneaux. Voyez-vous, le service pour le Seigneur venait après l'amour de Pierre pour son maître. Il fallait d'abord que Pierre aime passionnément son maître. Et notre service doit être une conséquence de notre amour pour le Seigneur. Notre service doit être un débordement d'amour. C'est parce que nous aimons le Seigneur que nous faisons quelque chose pour lui, n'est-ce pas vrai? Amen. Donc le point important, mes amis, n'est pas tellement ce que vous faites aux yeux de Dieu, c'est pas cela. Est-ce que dans toutes ces activités, tu as perdu ton amour pour Dieu? Vous vous souvenez un jour, Jésus est entré dans la maison de Simon, un pharisien, et après lui est entrée une femme pécheresse. Et cette femme pécheresse est courbée aux pieds de Jésus. Et avec ses larmes a commencé à mouiller les pieds du maître. Avec le parfum, elle a commencé à embaumer les pieds du maître. Et alors ce pharisien était là, offusqué. Il lui dit, mais maître, tu ne vois pas que cette femme c'est une pécheresse? Et le Seigneur lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Il lui a dit, un homme avait deux créanciers, à l'un il devait 50 deniers et à l'autre 500 deniers. Ce maître a remis ses dettes à ces deux hommes, lequel l'aimera le plus. Et il a dit, celui à qui on a remis le plus. Et cette femme que tu vois là, Simon, c'est une femme qui m'a aimé, c'est une pécheresse, c'est vrai. Mais elle est venue manifester son amour à mon égard, mais toi, tu n'as manifesté aucune expression d'amour, absolument rien du tout. Et cela m'attriste, Simon. Tu penses que son attitude à elle m'attriste, mais c'est ton attitude hypocrite qui m'attriste. Toi, tu fais beaucoup de choses pour Dieu. Tu fais beaucoup d'œuvres, Simon, mais il n'y a pas d'amour dans ton cœur pour moi. Il n'y a pas d'amour, et parce qu'il n'y a pas d'amour dans ton cœur pour moi, tout ce que tu fais pour moi n'a aucune valeur. Mais cette femme, parce qu'on lui a beaucoup pardonné, elle a beaucoup aimé. Comment retrouver cet amour pour le Seigneur? Une fois de plus, mes amis, il faut une nouvelle vision de la croix. Symboliquement, combien de deniers Dieu vous a remis? Est-ce que vous faites partie des 50 deniers ou des 500 deniers? Pour beaucoup, le pardon de Dieu dans leur vie correspond à 50 deniers. Si on vous pardonne, on vous remet une dette de 50 deniers, je ne sais pas combien ça peut faire, disons 50 francs. C'est pas grand-chose. Alors beaucoup disent, ah oui, j'aime le Seigneur m'a pardonné, une dette de 50 francs, est-ce que c'est beaucoup? Pas grand chose, 50 francs. Oui, merci Seigneur, tu es mort pour mes péchés. Oui. Mais dans le fond, c'est 50 deniers. Autrement dit, oui, je suis pécheur, mais il faut quand même pas exagérer. Je suis quand même pas si pécheur que ça. Je suis pécheur, mais je suis pas pécheur. Combien de gens disent, quand ils sont comme cela, ils disent, est-ce que tu es pécheur? Ben oui, je suis pécheur. Mais tu sais, tu dois te repentir, c'est grave ce que tu as fait. Mais monsieur, quand même, je ne suis pas, quand même, il ne faut pas exagérer. Je suis pécheur, c'est vrai, mais quand même, vous me prenez pour qui, monsieur? Et ces gens n'aiment pas le Seigneur, pourquoi? uniquement parce qu'ils n'ont pas réalisé combien Dieu leur avait pardonné. Mais quand on a remis une dette de 500 deniers, voyez-vous, la dette a décuplé. Quand on remet une dette de 5 millions à quelqu'un, alors ça change, vous ne trouvez pas? Le pardon de Dieu pour moi correspond à une dette qui a été remise de 5 millions. Je ne pouvais pas payer cette dette, c'était impossible. Et parce que je ne pouvais pas payer cette dette, Dieu me l'a remise. Mais il est merveilleux, alléluia. Oh, si vous saviez combien Dieu m'a pardonné. Voilà pourquoi je l'aime beaucoup maintenant. Alléluia. Voilà la révélation dont nous devons avoir constamment devant nous, mes chers amis. Si nous voulons aimer davantage le Seigneur, il faut réaliser combien il nous a remis la dette. Combien il nous a pardonné. Nous devons encore et encore réaliser cela, mes chers amis. Et il n'y a que celui qui réalise cela qui aimera le Seigneur de tout son cœur. Seigneur, je t'aime parce que ma dette était si grande. Et je réalise que ton amour est si grand pour moi. Il nous faut toujours et toujours garder cela. Et si vous pensez que Dieu vous a remis une dette de 50 francs, laissez-moi dire une chose, c'est que la révélation de la croix n'a pas encore été faite. C'est que vous ne vous voyez pas tel que Dieu vous voit. Vous n'expérimentez pas l'amour de Dieu parce que vous n'avez pas encore expérimenté le pardon de Dieu. Quand vous saurez combien Dieu vous a pardonné, alors vous saurez aussi combien Dieu vous a aimé. Amen. Oh, alléluia. Et cette femme, c'est une pécheresse. Elle a réalisé combien le Seigneur lui avait pardonné de sa vie de débauche, de sa vie de rébellion, de sa vie loin de Dieu. Elle en était brisée. Et le Seigneur l'a laissé faire comme pour dire, « Oui, je connais ton cœur, je t'aime, je pardonne tout cela. Et parce que je te pardonne, tu m'aimes maintenant. Tu m'aimes d'une manière spéciale. Tu m'aimes d'un amour fervent. » La parole prophétique pour Éphèse et pour nous cet après-midi, et pour toute l'année, et pour jusqu'au retour du Seigneur, c'est « Mon enfant ». Aie un amour fervent pour moi avant tes activités en mon nom. Ce qui compte, c'est cela. Oh, que Dieu renouvelle en nous cette vision de la croix et que nous puissions dire comme l'apôtre Paul, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Voyez-vous, le premier. Pierre disait qu'il était le premier des pécheurs et le dernier des apôtres. Nous disons que nous sommes le premier des apôtres et le dernier des pécheurs. On est toujours le premier des apôtres. On est toujours le premier pour se vanter, mais on est le dernier pour nous humilier. Voilà le secret de l'apôtre Paul. Voilà le secret de sa puissance. Je suis le premier des pécheurs. Il le disait lui-même. J'étais un blasphémateur, j'ai persécuté les chrétiens. Je ne suis pas digne d'être appelé un apôtre. Il a réalisé la noirceur de son péché. Il s'est vu au pied de la croix. Il a vu que son péché a crucifié le maître. Qu'il a été pardonné d'un grand pardon. Et voilà pourquoi il y avait un grand amour dans le cœur de l'apôtre. Encore une fois, mes amis, c'est la croix. C'est à la croix qu'il y a la réponse à tous nos problèmes. Mais nous n'aimons pas entendre parler de la croix aujourd'hui. Nous voulons la résurrection de Jésus, mais nous ne voulons pas de la croix. Et sans croix, il n'y a pas de résurrection. La résurrection est pour ceux qui passent par la croix. Et quand ils vivent la vie de résurrection, et parce qu'ils ont passé par la croix, mes amis, ces hommes-là restent debout, ces hommes-là restent humbles, ces hommes-là savent donner toute la gloire à Dieu. Alléluia! La parole prophétique pour chacun d'entre nous. Mon enfant, c'est un amour fervent que je veux pour moi. Tes activités, tout cela, c'est bien. Tu souffres pour moi, mais ne te vante pas de cela. C'est ton amour pour moi. Est-ce que tu m'aimes comme avant, comme le jour où tu t'es donné à moi? Est-ce que tu m'aimes comme cela? Est-ce que tu sais encore pleurer? Est-ce que tu sais encore dire que tu m'aimes? Rappelle-toi, souviens-toi du jour où la grâce de Dieu t'a touché, souviens-toi. Les larmes n'ont-elles pas coulé? L'amour de Dieu ne s'est-il pas révélé pour toi? Rappelle-toi de ce jour, rappelle-toi. Si tu te rappelles constamment de cela, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Amen. Tu l'aimeras ardemment. Et ton service pour lui se fera un service d'amour. Non pas je dois faire ceci, je dois faire cela. La tragédie de notre service aujourd'hui est celui-ci. C'est que nous parlons d'amour sans avoir l'amour dans le cœur. Nous parlons de paix sans avoir la paix dans notre cœur. Nous parlons de pardon sans avoir le pardon dans notre cœur. Nous parlons d'espérance sans avoir d'espérance dans notre cœur. Oh, que Dieu nous aide. Voilà la parole prophétique. Pour Éphèse, je veux que tu aies un amour fervent, fervent. Retrouvons cet amour, n'est-ce pas, mes chers amis? Retrouvons-le. Nous en avons tous besoin, moi le premier. Nous avons besoin de cela. C'est cela que le Seigneur demande avant toutes nos activités. Ne pensons pas que parce que nous-mêmes, nous avons des résultats dans notre ministère, que nous arriverons à fermer les yeux du Seigneur. Que nous pourrons lui dire, Seigneur, un petit peu, tu vois. Hein? Ne regarde pas ça, c'est pas ça. On ne parle pas de ça maintenant. J'ai une liste de bénédictions ici. J'ai une liste de tout ce que j'ai fait pour toi. Ta liste, mets-la au feu. C'est pas ta liste que je veux, c'est ton cœur. Une parole prophétique et un amour. Retrouve un amour fervent. Retrouvons un amour fervent. Amen. Retrouvons, retrouvons. Nous en avons tous besoin. Car sans amour pour le Seigneur, qu'est-ce que nous sommes? Des cymbales qui retentissent. Nous parlons d'un Seigneur qui aime les gens. Mais nous, quand nous leur parlons, ces gens, les gens ne voient pas en nous cet amour ardent pour le Seigneur. C'est du bout des lèvres. Il n'y a pas de larmes dans nos yeux. Il n'y a rien. On leur parle de l'amour de Dieu. Mais nous, ils ne voient pas cet amour ardent pour le Seigneur. Ils ne voient pas cela. Et ils se disent, comment? Tu dis que Dieu m'aime? Mais toi, je ne vois pas beaucoup que tu aimes Dieu. C'est tout un mécanisme religieux, spirituel. Tu es là, tu tournes, c'est comme des moulins prières qui sont là, des moulins activités. Enlève tout cela, retrouve ton amour, un amour fervent. Oh, que Dieu nous aide, n'est-ce pas vrai? Mes chers amis, voilà une parole prophétique pour nous qui va au fond du cœur, et c'est à la croix qu'on retrouve cela. Si vous savez combien Dieu vous a pardonné, alors vous l'aimerez de tout votre cœur. Tout dépend de la révélation. De cette révélation-là, tout dépend de cela. C'est pourquoi nous avons besoin, et encore, besoin de venir au pied de la croix, que Dieu nous aide. Amen. Deuxième parole prophétique, dans l'église de Smyrne maintenant, la parole prophétique que Dieu adresse ici, à cette église, c'est la fidélité. Cette église a besoin de fidélité. Apocalypse 2:10, il y a un verset extraordinaire. « Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. » Voilà. Le message prophétique pour Smyrne, c'était la fidélité. La parole prophétique pour toi, pour moi, pour le début de cette année, pour le début d'une vie nouvelle avec Christ, c'est la fidélité. C'est la fidélité. Être fidèle aux yeux de Dieu, dans le mot original, il y a cette pensée de quelqu'un sur lequel on puisse compter. En tout temps. Dans la bénédiction comme dans la persécution. Dans les beaux jours comme dans les mauvais jours. Un homme fidèle. C'est quelque chose de rare aujourd'hui. Dieu cherche des hommes fidèles et des femmes fidèles. En tout temps, des hommes qui réalisent dans la fidélité deux vérités importantes. Premièrement, nous devons être fidèles à Dieu. La fidélité dont il est question, c'est la fidélité à Dieu, à sa parole. Nous devons réaliser que Dieu cherche des hommes et des femmes sur lesquels ils puissent compter. Dieu vous a donné des dons, mais combien d'entre nous, nous les perdons, nous ne les manifestons plus, les dons? Nous ne sommes pas fidèles. Et nous disons, mais Seigneur, tu m'as abandonné, tu fais ceci, tu fais cela. Non ! Dieu ne nous a pas abandonnés, c'est nous qui avons abandonné ce que Dieu nous a donné. C'est nous qui n'avons pas été fidèles. Mais un homme fidèle, c'est quelqu'un qui dit, Seigneur, le talent que tu m'as donné, je ne le perdrai jamais. Amen. Et coûte que coûte, tu m'as donné un talent. Et tous ici, nous avons un talent, tous. Personne ici ne peut dire qu'il n'a pas de talent. Si vous n'avez pas de talent, si vous prétendez ne pas avoir de talent et que vous dites être chrétien, laissez-moi dire une chose, vous n'êtes pas chrétien. Vous n'êtes pas chrétien. Quand Jésus vient dans un cœur, il vient toujours avec au moins un talent. Amen. Au moins un cadeau. Et vous avez tous un talent. Êtes-vous fidèle à ce talent? Êtes-vous fidèle? La parole prophétique pour toi, mon ami, mon frère, ma sœur, c'est que Dieu te demande d'être fidèle. Sois fidèle jusqu'à la mort. Pas jusqu'à ce qu'on s'oppose à toi. Pas jusqu'à ce qu'on ne t'approuve plus. Pas jusqu'à ce que tu n'aies plus de succès. Mais jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de la vie. Oh, que Dieu trouve en nous des hommes fidèles. Sois fidèle. Dieu t'a donné une tâche. T'a confié une tâche. Dieu t'a donné quelque chose. Est-ce que tu es fidèle? C'est ce qu'il te reproche. C'est ce qu'il me reproche. C'est ce qu'il te reprochera peut-être un jour là-haut dans le ciel. Est-ce que tu as été fidèle jusqu'à la mort? Pourquoi est-ce que tu t'es laissé arrêter par l'un ou par l'autre? Je t'avais bien dit d'être fidèle jusqu'à la fin et jusqu'à la mort. Voilà un homme fidèle. C'est un homme qui reste debout. Dans la tempête, dans l'opposition, dans la contradiction, je suis là. Dieu m'a donné une tâche, un mandat. Je tiendrai là. Je serai fidèle. Approuvé par les hommes ou rejeté par les hommes, peu importe. L'homme fidèle ne regarde pas cela. L'homme fidèle ne cherche que l'approbation de son Dieu. Amen. Oh, combien Dieu cherche des hommes et des femmes comme cela aujourd'hui. Mais nous sommes fidèles tant que tout va bien. Mais le jour où on s'oppose à nous, le jour où il faut souffrir à cause de Jésus, il n'y a plus de fidélité, il n'y a plus rien du tout. Non, mon ami, sois fidèle jusqu'à la mort. Et Dieu te donnera la couronne de la vie. Premièrement, nous sommes fidèles à Dieu. Et deuxièmement, dans la fidélité, il y a une autre pensée. Est-ce qu'on peut vous confier une tâche? Ou vous resterez fidèle? Est-ce qu'on peut vous confier une tâche où vous êtes fidèle? À certains, on ne peut pas. On peut pas. Ils sont fidèles 15 jours. Au bout de 15 jours, et pendant les 15 jours, vous savez ce qu'ils disent? Oh là là, moi, donnez-moi ce travail, vous allez voir ça. Avec moi, c'est le réveil qui vient. Avec moi, c'est le réveil, ça dort ici dedans. Spécialement quand certains sont convertis, ou alors quand ils sortent d'une école biblique, ça, c'est, ils ont ce virus à ce moment-là. Bien souvent. Après la conversion, ils pensent tout transformer, tout bouleverser. Ça dort là-dedans. Ou alors après la conversion, après la sortie de l'école biblique, ils en ont plein la tête. Mais le cœur desséché complètement. Mais ils en ont tellement plein la tête qu'ils pensent que, ah bon, qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, mais ça dort par ici dedans. Vous allez voir mes messages, moi, des messages un peu. Vous allez voir ça, ces paroles, c'est une sagesse. Moi, il y a de tout dans mes messages. Il y a de la philosophie, il y a de je sais pas quoi, de la psychologie, et puis encore quoi, de la psychiatrie, il y a même aussi de la parapsychologie. Il y a tellement de tout. Il y a un mélange de tout. Vous allez voir qu'avec moi, vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu. Alors vous les voyez plein de feu pendant 15 jours, 15 mois pour les plus courageux. Mais au bout de 15 mois, plus rien du tout. Où tu es? Où il est? Mais où il est le frère, là, la sœur? Mais dis donc, mais il remuait tout, elle remuait tout. Ça courait dans tous les coins. Mais où c'est? Où ils sont? Je les vois plus. Je vois... Ah non, oh ben... Ben, je sais pas, il y a une mouche qui leur est tombée sur la tête. Quelqu'un qui... Il y a quelqu'un qui s'est moqué de lui ou d'elle. Alors la personne a dit, ah bah ben, si c'est ça,
Si c'est ça, ah, si on se moque de moi, ça c'est pas gentil, c'est pas juste. Moi je fais tout pour vous plaire. Et puis, on me traite comme cela, c'est pas juste. Si c'est ça, je plie les bagages. Et je ne fais plus rien du tout. Mais combien d'entre nous sommes comme cela, n'est-ce pas vrai? Mes amis, sois fidèle, voilà la parole de Dieu pour toi, sois fidèle. Dieu t'a donné un talent. Ne désire pas le talent de l'autre. Ne convoite pas le talent de l'autre. Ne convoite pas le ministère de l'autre. Dieu a fait de toi un être unique. Tu as un ministère unique. Tu as un talent unique. Ne cherche pas à ressembler à quelqu'un d'autre. Tu ne lui ressembleras jamais. Et toi-même, tu perds ton ministère. Sois toi-même. Et Dieu te donnera un ministère béni, un témoignage béni. Amen. Sois fidèle. Sois fidèle. C'est la parole prophétique pour toi. Est-ce que tu es fidèle à ce que Dieu t'a déjà donné? Cesse de demander autre chose à Dieu si tu n'es pas fidèle à ce qu'il t'a déjà donné. Arrête, arrête! Arrête de demander à Dieu autre chose. Le Seigneur te dit, au lieu de venir constamment pleurnicher devant moi, mendier, quémander, mets en pratique ce que je t'ai donné. Sois un homme fidèle. L'apôtre Paul disait au sujet des administrateurs, des gérants, ce qu'on demande d'un administrateur, c'est qu'il soit trouvé fidèle, fidèle, fidèle. Et Jésus, son nom est aussi fidélité. Voilà pourquoi Jésus a été jusqu'au bout. Voilà pourquoi nous irons jusqu'au bout. Fidélité, c'est la parole prophétique pour toi. Sois fidèle dans les petites choses et Dieu te confiera des grandes. Des grandes, des grandes. Il y en a qui veulent être fidèles que dans les grandes choses. Mais dans les petites choses, c'est des infidélités constantes. Ça ne marchera jamais. C'est de la fidélité dans les petites choses qui nous conduisent dans la fidélité dans les grandes choses. N'est-ce pas vrai? Troisièmement, l'église de Pergame. Quel était le message prophétique pour eux? Qu'avaient-ils besoin d'entendre? Le message était celui-ci. Tu dois avoir une saine doctrine. Apocalypse 2, verset 14. Le Seigneur dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam et plus bas à la doctrine des Nicolaïtes. C'est bien cela, à deux reprises là. Autrement dit, ici, la parole prophétique pour l'Église et pour chacun d'entre nous, c'est que nous avons besoin d'une saine doctrine. On ne peut pas croire n'importe quoi et n'importe qui. Nous vivons un temps où dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils abandonneront la saine doctrine. Ne l'oubliez pas. Il y a des gens qui n'aiment pas la doctrine. Il y a des gens qui n'aiment pas la saine doctrine, qui n'aiment pas étudier la parole de Dieu. Si vous n'aimez pas étudier la parole de Dieu, si vous n'aimez pas la saine doctrine, alors vous allez vous attacher à autre chose qu'à la parole de Dieu, aux traditions humaines. Et plus qu'aux traditions, si la vérité n'est pas votre fondement, vous allez tomber dans la confusion, dans la séduction spirituelle. La saine doctrine est importante, mes chers amis. La doctrine. Tout ce que nous faisons doit être bâti sur la parole de Dieu. Ne l'oubliez pas. Tout ce que notre Père Céleste n'aura pas planté sera arraché. Beaucoup de gens veulent nous faire croire, peu importe ce que quelqu'un croit, pourvu qu'il aime Dieu, pourvu que nous nous aimions les uns les autres, cela ne suffit-il pas? Non, mes amis! Tout le Nouveau Testament, toutes les épîtres de Paul, nous montrent que la doctrine est importante, car si la doctrine d'un chrétien n'est pas réelle, n'est pas bâtie sur la vérité, la vie de ce chrétien en subira les conséquences. Une mauvaise doctrine a des conséquences sur notre vie. Nous aurons une mauvaise vie si nous avons une mauvaise doctrine. Mais si nous avons une saine doctrine, nous aurons une vie saine, équilibrée, harmonieuse, puissante. Alléluia! Ce que vous croyez influence ce que vous vivez. Voilà pourquoi certains vivent mal. Parce qu'ils croient mal. Parce que leurs convictions sont fausses. Leur doctrine et leur philosophie sont fausses. Une fausse doctrine conduit à une vie déréglée. Mais une saine doctrine conduit à une vie équilibrée, juste, pure. Alléluia! Ce que j'ai contre toi, c'est que tu t'es attaché à cette doctrine de Balaam, de Nicolaïte. Autrement dit, des gens qui, soi-disant, croient la parole de Dieu, mais qui ajoutent autre chose à la parole de Dieu, des traditions humaines et des philosophies. Ça, c'est un danger aujourd'hui. Certains disent qu'ils croient en la Bible, mais à côté de la Bible, ils croient n'importe quoi. Des traditions, des choses que la Bible condamne. Et ils vous disent, mais nous, nous croyons à la Bible. Mes amis, si tu crois vraiment à la Bible, alors tu n'as plus besoin de croire en quoi que ce soit en dehors de la Bible. Amen. Car seule la Bible est la parole de Dieu. Et tout ce qui est en dehors de la Bible n'a pas de fondement, n'a aucune inspiration divine. Seule la parole de Dieu demeure. D'où l'importance, chers amis, de méditer la parole de Dieu pendant cette année qui vient. Amen. Et d'avoir une saine doctrine, une doctrine équilibrée. Voilà aussi la pensée. Pas se fourvoyer dans une doctrine pour négliger les autres. Il y en a qui appuient une vérité et qui n'appuient pas sur l'autre vérité. On est déséquilibré. Les uns, ils ne parlent que de la foi. Les autres, ils parlent que de la louange. Les autres parlent que des dons spirituels. Les autres parlent que des fruits de l'esprit. Les autres parlent que de la délivrance. Les autres parlent que du retour du Seigneur. Les autres parlent que de l'Église. Tout est déséquilibré. On a des datas spirituels. Et si nous sommes comme cela, nous n'avons pas une saine doctrine. La saine doctrine, c'est l'équilibre en tout. Amen. C'est l'équilibre en tout. Ce sont toutes ces vérités basées sur la parole de Dieu. Ce n'est pas croire seulement quelques vérités qui nous plaisent, parce qu'il y en a beaucoup qui sont comme cela. Et vous savez comment ils croient aussi? Ils prennent certains textes bibliques pour justifier ce qu'ils croient. La Bible dit, pas plutôt la Bible, mais enfin, c'est une pensée. Quelqu'un a dit, un texte en dehors de son contexte n'est qu'un prétexte. Voilà, beaucoup d'entre nous faisons cela. Nous avons des idées bizarres, des traditions bizarres, des philosophies bizarres. Et vous savez ce qu'on fait? On va chercher dans la Bible un verset qui vienne confirmer ça. Une drôle de doctrine, ouais, bizarre. Et puis on va chercher ça. On prend, non pas le verset, mais on prend le quart du verset. Et dans le quart du verset, on coupe encore une lettre en deux. Et vous dites, hey, toi, tu vois ça, et bien ça, c'est exactement ce que je pense. Mais si on lit tout le contexte, ça veut dire exactement le contraire. Ah mais oui, mon sang n'occupe pas de ça. Vous comprenez? L'important pour la personne n'est pas ça. L'important n'est pas de mettre leur vie, leur philosophie au diapason de la parole de Dieu. L'important est de trouver un verset bizarre, tordu, pour dire, eh bien, ça, c'est exactement ce que je crois. Ça, ce n'est pas avoir une saine doctrine. La Bible n'a pas été écrite pour justifier nos philosophies et nos traditions religieuses. La Bible a été écrite pour que nous soyons jugés dans notre vie par ce qui est écrit. Et non pas nous qui devons juger la Bible. Mon ami, si tu n'as pas une saine doctrine, si ce que tu dis n'est pas en conformité avec la parole de Dieu, ta vie sera en conséquence. Combien nous avons besoin pour cela de méditer la parole de Dieu, n'est-ce pas vrai? La saine doctrine, il faut la méditer, il faut la lire. Et pas seulement les passages qui nous plaisent. Pas seulement les passages qui nous plaisent, mais tous les passages de la parole de Dieu, tout doit être accepté si nous voulons grandir dans les voies du Seigneur. Amen. Pas seulement ce qui nous plaît, mes chers amis. Pas seulement ce qui vous plaît. Quatrièmement, l'église de Thyatire avait un autre besoin. Ce besoin, c'était qu'ils devaient contrôler leur motivation profonde. Je répète, la parole prophétique pour Thyatire, c'était qu'ils devaient contrôler, veiller à leur motivation profonde. Apocalypse 2, 23, il est dit ceci, « Je suis celui qui sonde les cœurs et les reins. » Voyez-vous, dans toute la lettre, il y a cette pensée qui ressort. Ce n'est pas tellement ce que tu fais aux yeux de Dieu qui compte, mais c'est l'esprit dans lequel tu fais quelque chose. Tu fais beaucoup de choses pour Dieu, mais cela n'est pas important devant Dieu. Dieu te dit, mais pourquoi fais-tu ces choses? Ce sont les motivations cachées dans ton cœur que Dieu regarde. Nous pensons que ces choses-là n'ont pas de valeur devant Dieu. Non, mon ami. Tu penses que parce que tu fais quelque chose pour Dieu et que Dieu est d'accord? Non, Dieu te dit, pourquoi fais-tu ces choses? Vous savez que les pharisiens, ils priaient, ils jeûnaient et ils donnaient. Mais pourquoi ils le faisaient? Pour être vus des hommes. Voyez-vous, leur motivation était fausse. Il y avait beaucoup d'œuvres religieuses. Il y avait beaucoup d'apparences religieuses, d'activités religieuses. Mais ils faisaient tout cela dans un mauvais motif. Leur attitude cachée était fausse. Mes amis, voilà, Dieu sonde les cœurs et les reins. Ce que tu fais pour le Seigneur, est-ce que tu le fais vraiment pour sa seule gloire et pour le bien des autres? Ou alors est-ce que tu le fais pour... Est-ce que tu utilises Dieu pour te montrer, pour te faire un nom, pour te faire une réputation? Est-ce que tu utilises Dieu pour te gonfler toi-même? Dieu te dit, c'est pas tellement ce que tu fais, mais pourquoi tu fais quelque chose. Dieu va au fond, à la racine de tes motivations. Chers amis, lorsqu'on commence à réfléchir à cela, non pas que dois-je faire, Seigneur, mais pourquoi est-ce que je le fais? Chers amis, il y a beaucoup de choses qui changeront. Il y a beaucoup d'activités que vous laisserez tomber. Il y a beaucoup de choses qui vont être purifiées. Mais le peu que vous ferez portera du fruit, et un fruit qui demeurera. Amen. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Pourquoi? Est-ce vraiment pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux dire dans ton cœur que c'est pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu ne ravis pas quelque chose pour toi? Et cela, nous devons le faire constamment. Constamment, nous devons nous réajuster dans ce domaine-là, n'est-ce pas vrai? Constamment, je dois me rectifier dans ce domaine-là. Constamment, je dois mettre mon cœur au diapason de la volonté de Dieu. Constamment, je dois abattre tout orgueil, toute jalousie, tout égoïsme. Constamment, je dois dire, Seigneur, non, là, je n'ai pas fait ces choses dans un bon esprit. C'était un peu moi qui étais là-dedans. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Je veux le faire uniquement pour ta gloire et ta gloire seule. Je sonde les cœurs et les reins. Pourquoi fais-tu ce que tu fais? Pourquoi veux-tu faire ce que tu demandes à Dieu? Pourquoi veux-tu le faire? C'est à toi de répondre. Faisons tout pour la gloire de Dieu. Et Dieu se manifestera au travers de nous. Amen. Dieu fera de grandes choses au travers d'un homme et d'une femme qui sauront toujours donner la gloire à Dieu. Dieu pourra faire de grandes choses. Mais le plus grand obstacle à notre avancement spirituel, c'est cet orgueil caché dans notre cœur. L'orgueil est quelque chose de caché, qu'on ne voit pas. Vous savez, un orgueilleux peut être très humble d'apparence. Écoutez-moi bien. D'ailleurs, très souvent même, un orgueilleux est très humble d'apparence. Très spirituel d'apparence. Alors, quand vous le voyez, vous dites, oh là là, ça c'est quelqu'un de formidable. D'un orgueilleux, vous, tout de suite, vous avez cette pensée-là. Parce que vous ne voyez pas l'orgueil, ce n'est pas quelque chose qu'on voit, c'est quelque chose qui est caché. Et pour cacher cela, il faut une drôle de... Il faut prendre des masques. L'orgueilleux, au moins, il a une dizaine de masques. Il en met tellement des masques qu'il commence à étouffer. Un jour ou l'autre, il va étouffer, de toute façon. Il va s'asphyxier. Voilà pourquoi l'orgueil tue. L'orgueil précède la chute. Plus tu mets des masques pour cacher ton orgueil, un jour, ces masques te tueront. Enlève tes masques. Ne joue plus à l'humble. Qui est l'humble devant Dieu? C'est celui qui constamment s'humilie devant Dieu de son orgueil. Et qui est l'orgueilleux devant Dieu? C'est celui qui est orgueilleux de son humilité. Il y a des gens qui sont orgueilleux de leur humilité. Quand vous les voyez, quand vous les entendez, quand vous les voyez marcher, ils sont tellement humbles qu'ils font tout pour que les regards soient orientés vers eux. Ah, ils sont tellement humbles. Je sonde les cœurs et les reins. Pourquoi fais-tu ce que tu fais? Si nous voulons que Dieu approuve ce que nous faisons, nous devons aller jusqu'à la racine de nos motivations. Amen, chers amis. Ça, nous pouvons tromper les hommes, vous pouvez tromper votre pasteur, vous pouvez tromper votre mari, vous pouvez tromper votre femme, vous pouvez tromper les autres, mais vous ne pouvez pas tromper Dieu. L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Au cœur. Et la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Voilà pourquoi certains, parfois, nous voyons des gens qui sont là un peu bizarres. À nos yeux, On a l'impression que c'est un peu des gens un peu pas trop normaux. Et Dieu les bénit. Tandis que l'autre, apparemment, il est impeccable. C'est le parfait pharisien. Ah, il est parfait, mais c'est le parfait pharisien. Il est parfait, c'est vrai, mais il est parfaitement pharisien. Il a tout réussi à bien sophistiquer les choses, voyez-vous, à bien arranger les choses. Pendant des années, il fait tout pour présenter une belle image de lui-même pendant des années. Et celui-là, il n'a rien dans sa... Dieu ne le bénit pas. Il y a pas, vous ne voyez pas d'onction sur lui. Et l'autre qui n'a rien du tout. Comment ça se fait? Dieu le bénit celui-là. Et l'autre qui est apparemment spirituel, il n'est pas béni. Voilà pourquoi. La raison, c'est que Dieu regarde au cœur. Et que au-delà de toute apparence, Dieu regarde au cœur. Au-delà de toute imperfection, Dieu regarde les dispositions du cœur. Quand Dieu voit un cœur humble, un cœur qui veut donner la gloire à Dieu, Dieu bénira cette personne. Même si cette personne n'est pas parfaite, malgré son imperfection, Dieu ne sera pas arrêté par son imperfection, par ses incapacités, par ses faiblesses. Dieu n'est pas arrêté par tout cela. Il n'est pas arrêté par tout cela. Il a trouvé un vase humble et Dieu l'utilisera et l'utilisera encore. Amen. Cinquième parole prophétique, l'église de Sardes, la parole dont ils avaient besoin est celle-ci. Ils devaient éliminer toute hypocrisie de leur vie. Dans Apocalypse 3, verset 1, il est dit, « Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. » Regardez voir ici. Écoutez bien. « Je sais que tu passes pour être vivant. » Autrement dit, c'était une église qui passait pour une église vivante. Rendez compte? Bien des fois, nous disons, oh, mon église est vivante. Ah bon? Oui, c'est bien, c'est une façon de parler. Mais elle peut être morte aux yeux de Dieu. Et quelle est donc la parole prophétique pour nous? La parole prophétique est celle-ci, c'est que nous devons vivre ce que nous disons. Nous devons éliminer toute hypocrisie de notre vie. Nous devons cesser de faire des choses que nous ne vivons pas. Nous paraissons vivants alors que nous sommes morts au fond de nous-mêmes. Nous ne vivons pas vraiment ce que nous disons. Il n'y a pas d'équilibre entre notre façon de croire et notre vie. Nous nous disons chrétiens et nous vivons comme des païens. Il y a de multitudes de chrétiens comme cela, entre guillemets. Ils se disent, mais moi je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien. Ah bon, mais je veux bien croire que tu es chrétien. C'est pas parce que tu dis que tu es chrétien que tu es chrétien. C'est ta façon de vivre qui doit le prouver. Est-ce que tu prouves par ta vie que tu es un chrétien? Est-ce que tu le prouves? Nous devons prouver par nos actes ce que nous disons. Là encore, ça va en profondeur, n'est-ce pas? Que Dieu nous aide à ôter ainsi toute superficialité, toute apparence, toute tromperie aux autres. Alors que, intérieurement, ces choses ne sont pas en nous. Nous paraissons vivants, mais nous sommes morts. Sixième parole prophétique à l'église de Philadelphie. Apparemment, à cette église, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais si leur besoin était une vision renouvelée. Il leur dit, Apocalypse 3, 8, « J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Philadelphie, c'est l'église où apparemment tout va bien, mais Dieu leur dit, « Attends, attention, il y a beaucoup de choses qui vont bien avec toi, mais j'ai mis devant toi une porte que personne ne peut fermer. » Autrement dit, tu dois continuer. Tu ne dois pas t'arrêter à la bénédiction présente. Un chrétien qui s'arrête, c'est un chrétien qui reculera tôt ou tard. Si vous pensez que vous êtes arrivé, si vous pensez qu'il n'y a rien à reprendre dans votre vie, si vous pensez qu'il n'y a pas à aller plus loin avec Dieu, vous allez commencer à reculer. Si vous pensez que vous savez tout, si vous pensez que, bon, ben, il n'y a plus rien à apprendre, alors qu'est-ce qui va se passer? Vous allez commencer à reculer. C'est pourquoi nous avons besoin d'une vision renouvelée. Avec Dieu, il y a toujours plus. Il y a toujours plus. Si tu veux garder ce que Dieu te donne, Tu dois le donner à d'autres. Tu dois grandir. Tu dois aller plus loin. Tu ne peux pas rester sur tes lauriers. Il y en a beaucoup qui sont là, qui couchés sur leurs lauriers et qui méditent leurs bénédictions du matin au soir. Oh, dans le passé, ce sont des gens qui vivent dans le passé continuellement. Oh, les réveils dans le passé, c'était formidable. Les réveils dans le passé, c'est formidable. Maintenant, tous les réveils maintenant, ça vaut rien du tout. Ce n'est pas des vrais réveils d'abord. Ah, de notre temps, c'était formidable. Et tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils font, c'est toujours dans le passé, toujours, toujours. Dieu a mis une porte devant eux. Une vision qu'elle a. J'ai mis une porte ouverte que personne ne peut fermer. Une porte, c'est fait pour passer. C'est pas fait pour regarder comme cela. Mais ils sont là. Ils ne vont pas plus loin. Et parce qu'ils ne vont pas plus loin, eh bien, ils risquent de perdre ce qu'ils ont. Mes amis, le point le plus dangereux maintenant, c'est de rester là où nous sommes. Le point le plus dangereux pour toi maintenant, au début de cette année, c'est de rester là où tu es. C'est de ne pas progresser, c'est de ne pas persévérer. Ça, c'est le point le plus dangereux. Car si tu n'avances pas maintenant, si tu ne passes pas au travers de cette porte, tu vas reculer. Et à la fin de l'année, tu seras en arrière. Tu auras tout perdu. Tu dois aller de l'avant. Il y a des âmes à conquérir. Il y a un terrain à conquérir. Il y a des âmes à sauver. Il y a des malades à guérir. Il y a des possédés à délivrer. Il y a des pauvres qui doivent entendre l'évangile. Il y a des milliers et des millions qui se meurent. Nous ne pouvons nous satisfaire de ce que Dieu nous a donné. Il y a tant à faire. Il y aura toujours à faire. Il y a toujours une porte devant nous. Allons de l'avant. Allons plus loin. Ne restons pas là où nous sommes. Amen. Le point le plus dangereux, c'est de rester là où vous êtes. Et je termine. À l'église de Laodicée, la parole prophétique pour cette église et pour nous, c'est un cœur bouillant. Retrouver un cœur bouillant. Apocalypse 3:15, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Et parce que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Mais ce que je demande de toi, c'est que tu sois bouillant, bouillant, bouillant. Voilà la parole de Dieu pour nous. Le Seigneur revient et il veut que nous soyons bouillants. C'est Martin Luther qui disait cela dans une de ses méditations. Et je termine par cela. Il parlait d'un récit que le diable avait avec ses petits démons. Et il avait donné des ordres à ses démons. Il leur avait dit, il faut que tu ailles un peu vers les chrétiens. Et que tu les arrêtes un petit peu. Hein. Il faut que tu fasses quelque chose pour les arrêter. Alors il en a envoyé plusieurs. Et un jour, trois sont revenus. Il a demandé à l'un, alors, rends-moi des comptes. Capitaine, qu'est-ce que t'as fait avec ces chrétiens? Ah ben, voilà, je viens. Il y avait des chrétiens qui étaient dans un bateau. J'ai fait venir la tempête. Et ils sont tous morts. Le diable lui dit, mais quoi? Mais leur âme est sauvée! Stupide! L'autre arrive. Et toi, qu'est-ce que tu as fait avec ces chrétiens? Eh bien, moi, dans les déserts, là, j'ai envoyé des bêtes sauvages contre eux. Ils sont tous morts. Et tu es content? Mais leur âme est sauvée! Tu as échoué. Et l'autre, le dernier, arrive. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, moi, ça fait depuis 10 ans que je suis derrière un chrétien. Et j'ai réussi à l'endormir. Il dort maintenant. Le diable lui dit, c'est toi qui as fait le meilleur travail. L'enfer est en fait maintenant. Parce que tu as endormi un chrétien. Et le diable s'est réjoui. C'est là sa plus grande victoire. Mes amis, que Dieu nous aide à retrouver un cœur bouillant. Amen. Un cœur fervent. Quand de l'eau est en ébullition, qu'est-ce qui se passe? Les microbes sont détruits, n'est-ce pas vrai? Dans de l'eau tiède, c'est justement... De l'eau tiède, c'est un peu... C'est là où se trouvent encore tous les microbes. C'est un bouillon de microbes là-dedans. Mais quand l'eau commence à bouillir, les microbes sont détruits. Amen. C'est ce qu'on fait d'ailleurs, hein, pour enlever les microbes, détruire les microbes. Allez, vroom, on fait bouillir l'eau. Et c'est ce que Dieu veut faire dans notre vie. Que lorsque nous sommes bouillants pour le Seigneur, nous détruisons le mal à sa racine, le péché à sa racine, et nous restons vivants. Alléluia! Nous restons éveillés. C'est pourquoi Dieu nous demande de rester éveillés. ne nous laissons pas endormir par le diable. Amen. Et beaucoup de chrétiens se laissent bercer, endormir. Réveillons-nous. Ayons un cœur bouillant. Alléluia. Le maître revient bientôt. Ou froid ou bouillant, mais pas tiède. Le Seigneur respecte davantage les incrédules, ceux qui ne croient pas, que ceux qui croient, mais qui dorment. Il vaut mieux être un païen qu'un chrétien endormi. Mais il vaut mieux être un chrétien bouillant qu'un païen perdu. Alléluia! Oh, gloire au Seigneur! Un chrétien bouillant, gloire à Dieu. Qu'un mauvais chrétien ou qu'un païen qui dort et qui se moque de Dieu. Que le Seigneur nous donne de vivre pendant cette année qui est là et d'avoir, comme l'apôtre dit, soyez fervents d'esprit. Alléluia. Fervents d'esprit. Et que nous restions éveillés, vivants lorsqu'il reviendra. Le diable cherche un peu à anesthésier un peu tout le monde, à hypnotiser un peu tout le monde, par beaucoup de choses. Et combien de chrétiens sont encore hypnotisés? Anesthésiés. Vous voyez, ils sont toujours dans les nuages. Et dans les nuages, c'est très dangereux. La Bible nous dit d'être sous la nuée, mais pas dans les nuages. Il y a une différence entre être dans les nuages et être sous la nuée. Moi, je préfère être sous la nuée. Amen. Sous la nuée. La nuée, c'est une nuée qui réchauffait aussi les Israélites dans le désert pendant la nuit. Hein? C'était une nuée qui les réchauffait. Alléluia. C'est un feu. La présence de Dieu est un feu. Un feu qui réchauffe nos cœurs. Amen. Que Dieu nous aide à ainsi nous exhorter mutuellement, nous réchauffer mutuellement. Le jour approche. La charité d'un grand nombre se refroidira. Mais gardons ce feu de l'amour en nous. Et nous resterons bouillants jusqu'à son retour. Que nous ayons le feu de l'amour pour le Seigneur. Et la passion des âmes. Celui qui a ces deux choses. La passion des âmes et un feu d'amour pour le Seigneur. C'est quelqu'un qui restera bouillant. Et non seulement qui restera bouillant, mais qui bouillonnera les autres. Qui réchauffera les autres. Alléluia. Qui brûlera les autres dans le bon sens. Amen. Oh, dis donc, depuis que tu es à côté de moi, ça chauffe un petit peu, toi. Ça chauffe. Je vois que tu aimes le Seigneur. Tu me communiques quelque chose. Amen. Alléluia. Celui qui a un feu, le feu se communique. C'est pas possible. Si on communique rien aux autres, c'est parce qu'on n'a rien du tout. C'est tout. Comment tu sais pas que j'ai un feu? Non, non, pas du tout. Je sens rien du tout. Comment tu sens rien du tout? Oui, un feu, ça sent. Amen. Ça sent. Si les autres ne sentent rien du tout, c'est que tu n'as rien du tout. Ne te fais pas d'illusions. Le feu, ce que je dis, Dieu veut me donner, c'est le feu. Ce que je veux, c'est le feu. Vous serez baptisés d'Esprit Saint et de feu. Alléluia, dites un peu Alléluia, un peu plus fort. Oh, Alléluia. Oh Seigneur, nous te louons de ce que tu nous parles encore maintenant. Et c'est cette parole prophétique, nous voulons les recevoir dans notre cœur. Je veux les recevoir, Seigneur, avant qu'il ne soit trop tard, avant que mon cœur ne s'endurcisse. Avant que je ne m'endorme du sommeil de la mort, Seigneur, comme nous l'avons dit au début, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Seigneur, trouve en nous des hommes et des femmes obéissants, attentifs à ta voix. Ne nous laisse pas, Seigneur, berner par le diable, bercer par le diable, hypnotiser par le diable, dans un sommeil de mort spirituelle. Donne-nous d'être dans la réalité, de sortir de notre sommeil. Car la lumière paraît déjà, les ténèbres s'enfuient, Jésus revient bientôt. Alléluia! Gloire au Seigneur, prends ma vie, Seigneur. Oh, que pour cette nouvelle année, il y a un feu nouveau en moi. Que le feu ne diminue pas, Seigneur, mais que le feu augmente. Le feu de mon amour pour toi, le feu de mon amour pour mes frères et mes sœurs, le feu de mon amour pour les âmes. Oh, Jésus, je veux que ce feu, ces trois feux, soient continuellement dans mon cœur. Et je serai prêt pour ton retour et pour ton glorieux retour. Amen. Gloire au Seigneur.